Une femme m'a paru, chapitre 14. J'errais dans les rues où s'empourprait un merveilleux crépuscule mauve, pareil à un tissu de violette, lorsque je rencontrais San Giovanni. Elle semblait plus que jamais détachée d'un cadre ancien. Les seins et les hanches sans relief, de vierge adolescente ou d'éphèbe, ne soulevaient point l'étoffe de sa robe imprécise. Elle était droite et longue comme un page. Quel hasard bénévole a conduit jusqu'ici vos pas, San Giovanni? Quelque Florentine, aux yeux plus noirs que la nuit italienne, vous attend sans doute, accordant un luth ou effeuillant une rose? L'androgyne me répondit brusquement, tout à l'intime trouble de son âme. Je crois qu'au fond de votre passion amère pour Vali, il dort une tendresse insoupçonnée de vous-même. Je viens faire appel à cette douceur d'amitié qui est en vous. Mon étrange amie s'arrêta, indécise. Vous ne connaissez pas Vali comme moi. Votre âme britannique, où sommeille encore le vieux levain protestant, ne peut se plier à l'intelligence de ces flirtations très hardies et très ingénues, où se complaît la rouerie puérilement perverse des américaines. Vous êtes de race d'âme différente, vous ne vous comprendrez jamais. Vali aime à faire souffrir les hommes par l'offre impudente de son inviolable beauté. Elle a voulu cette attitude d'idole tangible et pourtant lointaine. Elle frémit délicatement de se savoir inaccessible dans une atmosphère brutale de désirs et de convoitises. Elle adore les tortures que font naître son regard et son sourire. Le sentiment de sa puissance féminine l'enivre. Mais elle demeure plus froide que les glaces éternelles qui défient le soleil. Votre orgueil saxon n'admettra jamais ces subtilités. Vous gardez l'âme hostile, l'âme hérissée de soupçons, de l'antique Roundhead. Elle s'interrompit, ses yeux énigmatiques scrutant mes yeux humiliés. Écoutez-moi bien, disciple de l'Ironside Cromwell, si peu compris par le bourgeois français Hugo. Si vous ne modérez point votre douleur jalouse et votre humeur sauvage, vous perdrez Vali. Elle s'évadera de ce brouillard dont vous voulez l'envelopper et où elle étouffe. Il lui faut le grand air, l'espace et le soleil. Elle a une si brûlante jeunesse, une telle ardeur de vivre. Ô San Giovanni, patron des amours perverses, conseillez-moi. Car nul ne doit connaître Vali plus fraternellement que vous. Vali, comme vous le savez, a eu le tort de se fiancer en secret avec le prostitué. Oh, n'attribuez pas à ce fait insignifiant plus d'importance qu'il n'en a dans la réalité. La plupart des jeunes américaines, je vous l'ai dit 100 fois déjà, se promettent en mariage à droite et à gauche sans la moindre intention d'accomplir ce sacrifice. C'est un prétexte à baiser sur les lèvres, rien de plus. Et en Amérique, le baiser sur les lèvres n'a guère plus de gravité qu'un baiser sur la joue en France. Entre sœurs et entre amis, sans équivoque, on s'embrasse à pleine bouche. Vali ne fait que suivre les usages de son pays natal. Elle a déjà eu 13 fiancés, et c'est sans doute afin de ne point s'arrêter sur ce chiffre fatidique qu'elle en a élu un 14e. San Giovanni hésita un instant. Je vous en prie, obtenez de notre fantasque Morgane la promesse de bannir cet homme de son intimité. Je ne prononcerai pas le mot démodé et ridicule de compromission. On ne compromet plus les jeunes filles, Dieu merci. elles seules peuvent se compromettre en allant vivre maritalement avec un monsieur ou en devenant enceinte. Valie ne se donnera jamais à un homme, se reprit-elle. Elle n'aime point les hommes, vous devez le savoir aussi bien que moi. Elle se méfie d'eux comme on se méfie instinctivement de ses adversaires. Elle les hait comme des ennemis. Elle se mesure avec eux comme avec des rivaux. Ne craignez point la présence d'un homme dans le cœur de Valie. Je n'écoutais plus les paroles de San Giovanni. Je ne voyais plus le sourire de ses lèvres aux lignes sinueuses. Je chancelais, ivre de douleur. Adieu, saint pervers. J'allais, sans penser, vers la demeure de Valie. Je m'étonnais de souffrir si peu, ou plutôt de souffrir si inconsciemment. En arrivant devant la porte où, tant de fois, j'avais hésité délicieusement avant d'entrer, l'horreur du présent me rappela à la réalité de l'heure, comme une torture nouvelle ranime le patient évanoui. Je ne me souviens plus très exactement de ce qui suivit, car je marchais dans une brume de cauchemars. Ma mémoire évoque surtout la pénombre savante du boudoir vert et la silhouette blanche de Valie. À ma vue, le pli de ses lèvres dessina un sourire contraint. Le prostitué s'agita fébrilement sur son fauteuil. Je m'approchai de Valie. Je viens vous féliciter de l'événement heureux que j'apprends, vos fiançailles. Valie se leva. Blanche et longue comme un lys expiatoire.
« Je ne comprends pas, » répliqua-t-elle sèchement. « Il n'a jamais été question de fiançailles entre monsieur de Vauldame et moi. »
Lorsque je retrouvai la notion des choses réelles, le prostitué n'était plus dans le boudoir. Valie me regardait de ses yeux bleus froidement courroucés. Je ne sais plus quelles paroles inhabiles je balbutiai dans ma fièvre. J'essayais machinalement des phrases de reproche et de blâme, en m'efforçant de maintenir un accent résolu. Les lèvres minces de ma Lorelai se contractèrent. Elle ne semblait plus qu'une mince ligne transversale dans son visage immobile. Je m'écoutais sans m'entendre moi-même. La voix de Valie, dure comme un choc de métal, raya le silence.
« Je ne m'explique pas ton imbécile obstination à m'irriter et à te rendre intolérable. Tu aurais dû voir que, si je dédaigne les calomnies, je méprise ceux qui s'en font l'écho stupide. Je ne crois pas un seul mot de ces fables ridicules à propos de monsieur de Vauldame, inventées sans doute par ta jalousie en délire. Mais cet énervement perpétuel où tu te complais à me jeter, par tes soupçons tracassiers et absurdes, a lassé ma patience. » Nous sommes à un tournant du destin où nos deux routes différentes se séparent. J'ai toujours été loyale envers toi. Je ne t'ai point fait de mensongères protestations de tendresse. Dès la première minute, je t'ai ouvert le néant de mon cœur. J'aurais voulu t'aimer. Tu n'as point su m'inspirer l'amour que je souhaitais si vainement. Je ne sais si ma passion maladroite fut la seule cause de cette grande inintelligence de nos âmes. Certes, je t'ai importunée de ma méfiance ombrageuse, mais n'était-elle point la conséquence logique de cette froideur méprisante que tu me témoignais? Tu t'adressais à moi comme un maître brutal qui rudoie un serviteur négligent. Tu te plaisais à me blesser et à donner à tes courtisans le spectacle de mon humiliation. Si ces multiples blessures m'étaient plus douces que les caresses d'une autre, elle m'était plus amère que la fin des espérances terrestres. Je ne te fais aucun reproche, Valie, ma très blonde et ma bien-aimée. Je t'ai immolé ma vie avec joie. Tu m'as fait connaître l'incomparable volupté du sacrifice, la merveilleuse douceur du renoncement. Je t'ai aimée d'un amour pieux, comme d'autres aiment leur madone. En vérité, les prêtres et les moniales, qui répudient le siècle dans leur ferveur divine, n'ont point connu l'extase mystique avec laquelle j'ai tout abandonné pour te suivre. Tu es l'inoubliable, Valie. Tu peux me chasser de ta présence, tu peux m'exiler de ta grâce cruelle, mais tu n'effaceras jamais l'incomparable souvenir que j'ai mis à l'abri des métamorphoses de l'existence. Car on n'efface jamais la brûlure profonde du premier amour. » Elle ne m'écoutait plus. Une colère glaciale brillait dans ses prunelles, pâlement bleues comme un fleuve du nord. « Ta présence m'est devenue odieuse, » dit-elle, de cette voix mesurée des juges qui prononcent une sentence capitale. « Tu es sur mon chemin l'ombre qui obscurcit les rayons et qui endeuille les roses. Ton âcre tristesse m'exaspère indiciblement. L'amertume de ton caractère te rend abominable. Tu es une âme de colère et de haine. Tu t'obstines à ne me voir que sous l'aspect le moins beau. Tout ce que je possède de fier et de noble est resté ignoré de toi. Ta mesquine jalousie ne pouvait s'élever au-dessus des faits et des apparences. Va, je préférerais n'importe quelle inimitié loyale à l'hypocrisie de ton amour. Va, ordonna-t-elle de sa voix d'acier. Je sortis. Un grand silence s'était fait en moi. Mon cœur était pareil à un sépulcre sans aurore.